Eh bien, mes amis, je vous remercie de vous être prêtés si gentiment à ces présentations qui nous sont, je le pense, très utiles parce que on se rend compte un peu d'où vous venez et peut-être aussi, d'après vos occupations, quelles sont vos préoccupations. Alors ce soir, avant toute chose, nous allons implorer la grâce de Dieu. Dieu notre Père, nous sommes devant toi et sous ton regard, le regard d'un Père qui aime toutes ses créatures. Car si nous sommes là, si nous existons, c'est que tu l'as voulu. Et nous te bénissons parce que nous savons que nous ne sommes pas le fruit du hasard ou d'un accident. Car ô notre Dieu, c'est toi qui fais vivre. Comme aussi c'est toi qui fais mourir. Et si c'est toi qui es l'auteur de notre existence, nous pouvons déjà croire dans ces premiers instants que tu l'as voulu heureuse, belle, bénie. Pourtant, nous sommes sur cette terre peut-être dans l'angoisse, dans la peine, dans toute espèce de difficulté, mais tu les connais. Et tu nous dis qu'au fond, ce n'est pas toi qui as voulu ces choses, mais que nos premiers parents sont tombés dans une faute grave, n'ont pas voulu de ta direction, et nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences. Mais tu n'as pas voulu nous laisser seuls et misérables. Tu nous as aimés d'un amour infini. Et tu nous as donné un sauveur. Et tu voudrais que tout change par la puissance de ce sauveur dans nos vies. Et c'est pourquoi nous sommes pleins de confiance au début de cette heure et nous croyons qu'en effet, tu pourrais encore nous étonner par le changement que tu pourrais produire d'abord dans nos cœurs, dans nos pensées et aussi dans notre situation. Car tu n'es pas un Dieu qui nous trompe. Et nous voulons te bénir d'avance parce que nous pouvons croire à ton amour et à ta bonté. Que tu présides toi-même chacun de ces instants et que nous puissions être au contact de celui qui fait les délices de ton cœur et que tu nous as donné pour qu'il fasse aussi les délices de notre cœur, afin que sur la terre, en attendant d'être dans ta maison, nous puissions déjà connaître le bonheur de Dieu. En Jésus. Amen. Mes amis, j'ai vraiment de la joie ce soir en vous voyant tous rassemblés ici. Vous êtes venus de lieux divers, Dieu vous a gardés dans le chemin et nous le bénissons que vous soyez tous arrivés sans accident. L'autre jour, j'étais dans l'Abitibi et le nord-est de l'Ontario. Et pendant que nous soupions, on a reçu un téléphone du patron de celui qui était mon hôte, qui m'avait donc reçu, et qui annonçait, c'était pas directement le patron, non, c'était le fils du patron qui annonçait que son patron était tué. Il s'était tué dans un hélicoptère. Et la veille, en partant avec son hélicoptère, il avait dit « Je suis en sécurité. J'ai dépensé 35 000 dollars pour le mettre au point. Alors, il ne peut rien nous arriver. » Ils étaient quatre dans cet hélicoptère. Et puis, des quatre passagers, c'est lui qui a été tué. Et c'était son hélicoptère qu'il avait fait réviser
il avait payé 35 000 dollars, et une de ses dernières paroles en quittant les siens, « Je suis en sécurité. » Bien, chers amis, notre sécurité, c'est le Christ. Mais ce n'est pas une sécurité humaine qui est la nôtre, mais c'est une sécurité divine, en Jésus. Je vous dis cela simplement parce que je suis reconnaissant de vous voir tous. Je crois qu'il ne manque personne. Il y a encore peut-être des amis de Hall, hein, qui ne sont pas venus, ou bien tous ceux de Hall sont arrivés. Comment ? Non, ils ne sont pas encore arrivés. Alors, on peut encore penser à eux. Ma bienvenue, chaque retraite, je la prononce par une parole biblique. Et pour cette fin de semaine, je me suis vraiment tenu devant Dieu pour recevoir de lui cette parole, lui demandant qu'elle puisse correspondre aux besoins de tous vos cœurs et aussi préparer nos âmes, la mienne comme la vôtre, à recevoir dans ces journées la pleine bénédiction de Dieu. Est-ce que vous croyez que vous pouvez recevoir dans ces heures la pleine bénédiction de Dieu? J'espère bien que vous n'êtes pas venu en désirant moins que cela. Vous désirez la plénitude, une pleine bénédiction de Dieu. Vous désirez pouvoir repartir de ces lieux avec des cœurs qui débordent, en ayant laissé tous vos soucis, toutes vos peines, et en repartant avec cette joie profonde, sachant que Dieu est pour vous. Alors, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Alors, le texte qui est venu à moi pendant que je priais, et celui que j'ai mis ici, sur le tableau, « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. » Là, j'ai mis la traduction seconde. Ici, j'ai la traduction de Jérusalem. Et c'est dans la traduction de Jérusalem que je vous lirai le contexte où se trouve cette parole, pour que nous puissions mieux saisir ce que le Seigneur veut nous dire par son esprit. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans Christ Jésus. Vous venez de vous présenter. Est-ce que vous êtes sympathiques les uns aux autres? Je l'espère. Je veux l'espérer. Mais ça, nous ne nous connaissions pas. Et vous rencontrez pour la première fois ce visage. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez entendu pour la première fois cette voix. Quel a été votre sentiment? Eh bien, nous voulons croire que vous avez eu dans votre cœur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que vous avez vu et vous avez pensé, cette personne est aimée de Jésus. Et vous savez le prix que chacun de vous a pour Dieu. Quand Dieu vous regarde du haut du ciel, il vous voit tous. Et vous savez ce qu'il pense? Ce sont des personnes, ce sont des âmes, chacune de ces âmes. Mon fils a donné sa vie pour les racheter. Vous ne savez pas que c'est fantastique? Le prix que vous avez pour le cœur de Dieu, c'est la vie de son Fils. Pour chacun de vous, le Fils vous a aimé à un tel point, quand il vous a vu, quand il vous a regardé, que vous soyez sympathique ou pas sympathique, vous étiez dans la peine, vous étiez perdu. Il a dit, cette personne-là, je veux la sauver. Et pour la sauver, il fallait mourir pour elle. Eh bien, il est mort pour vous. Alors, mes amis, c'est quelque chose. Quand on connaît cette vérité, que chacun de nous, nous avons coûté la vie de Jésus, du Fils unique et éternel du Père, bien nos sentiments pour cette personne doivent être les sentiments de Jésus. Qu'il y ait dans vos cœurs les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et voyez, comme ce texte que vous trouvez dans Philippiens, chapitre 2, que vous connaissez peut-être déjà par cœur, mais dans la Bible de Jérusalem, on le lit ainsi. « Je vous en conjure !» Pourquoi est-ce qu'on dit « je vous en conjure » ? C'est que c'est nécessaire que vous soyez sensibilisés à cela, peut-être dès ce soir. « Je vous en conjure !» Ce n'est pas une simple exhortation, mais « je vous conjure !» par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ. Est-ce qu'il y a dans le Christ un appel pressant quand on pense à ce qu'il a fait pour nous en mourant sur la croix? Est-ce qu'il y a un appel pressant dans le cœur? Eh bien, je vous en conjure, par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, est-ce que l'exemple du Christ qui donne sa vie pour des coupables, pour des pécheurs, est-ce que cet exemple ne nous persuade pas que nous devons avoir dans nos cœurs des sentiments différents de ceux du monde? Qu'il y ait en vos cœurs les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, je vous en conjure, parce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit. Parce que nous allons avoir l'occasion de parler de la communion entre frères. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas capable de mettre entre nous une communion profonde, de communion dans l'esprit? Puis vous voyez ensuite, de tendresse compatissante. Est-ce qu'il y a de la tendresse dans votre cœur? Mais une tendresse compatissante. Est-ce qu'il y a de la compassion dans votre cœur, même pour ceux qui ne vous comprennent pas, même pour ceux qui ne nous aiment pas, même pour ceux qui nous font du tort? Est-ce que nous avons de la compassion pour eux? Parce que quand quelqu'un nous fait du tort, ou fait du tort à un croyant, vous savez ce que le Seigneur pense, lui? Parce que c'est du tort à lui qu'on fait. Le tort qu'on peut me faire, c'est du tort qu'on fait à qui? Au Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui m'habite. Moi, je ne suis rien du tout. Mais le Seigneur est en moi. Le Seigneur est en vous. Si l'on vous fait du tort à vous, c'est du tort qu'on fait à qui? Au Seigneur. Et quand on a fait du tort au Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur quand il le clouait? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, mes amis, je demande à Dieu que nous soyons habités par ces pensées. Ceux qui nous font du tort, quels qu'ils soient, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, voilà comment je peux avoir dans la pratique les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Passons par-dessus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'il y ait en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ces sentiments, bien, nous le savons, ce qu'il a dit quand on le clouait. Père, pardonne-leur. Et ça fait mal d'être cloué. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, ce n'était pas simplement les soldats qui le clouaient, mais les gens qui passaient par là et qui l'injuriaient, c'était des gens religieux. C'était des gens qui prétendaient croire en Dieu, être fidèles à Dieu, et qui pensaient ou qui croyaient, on leur avait dit que Jésus avait blasphémé parce qu'il s'était fait fils de Dieu. Alors vous voyez, nous voulons dès les premiers moments, parce que nous aurons un sujet très important à traiter, nous voulons demandez à Dieu que nous ayons vraiment ces sentiments. Ayez le même amour. Dit l'apôtre Paul, soyez d'une même âme, ayez un même sentiment, n'accordez rien à l'esprit de parti. Vous savez, le diable est le grand diviseur et il voudrait toujours que nous fassions des parties. N'accordez rien à l'esprit de parti. Je ne me laisserai pas entraîner dans la partisanerie. N'accordez rien à l'esprit de parti. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Il faut que je pense à l'intérêt des autres. Et l'apôtre Paul dit qu'en agissant ainsi, il dit cela aux Philippiens, vous mettrez le comble à ma joie. Vous mettrez le comble à ma joie en étant dans un même sentiment. Et c'est là que vous trouvez le verset 5, « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. » Et il nous le présente, lui, de condition divine. Il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Là, vous avez l'exemple du Seigneur et les diverses étapes de ce grand mystère du Christ. D'abord, sa préexistence. Il était de condition divine. Son commencement n'a pas été à la crèche. Hein. Il venait de Dieu, d'auprès de Dieu. Et il s'est abaissé par son incarnation. Il avait le même rang, le rang qu'il égalait à Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'une égalité de nature, mais de traitement. De dignité. Qui aurait dû être manifesté et reconnu. Il était de condition divine, hein. Il avait la même nature que Dieu. Il était Dieu. Mais il a accepté de ne pas être traité comme Dieu. Comprenez-vous? Nous voudrions être traités, bien traités, hein. Nous sommes chrétiens, nous sommes au Seigneur, nous pensons avoir des droits. Il avait tous les droits. Eh bien, il n'a pas voulu insister sur ses droits. Étant de condition divine, il a accepté de ne pas être traité avec la dignité qui lui revenait. Jésus aurait pu revendiquer dans son humanité cette dignité. Mais je suis Dieu, non? Il a accepté d'être traité comme qui? On l'a mis au rang de qui? Des malfaiteurs. Vous voyez, et cela c'était volontaire. Il a accepté cela. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a parlé très profondément. Il m'a dit, tu vas passer par de grandes épreuves. Tu seras rejeté, tu seras calomnié, tu seras incompris. Ça, il me l'avait dit. Avant que certaines circonstances, il y a plus de 40 ans, m'arrivent. Et il m'a montré sa position à lui. Il n'a pas résisté. Il s'est laissé faire. Ses ennemis ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Puis le Seigneur m'a dit, mais toi, tu voudrais être mieux traité que moi? Il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître. Alors, on parle d'une identification, on chante, te ressemblait Jésus, te ressemblait Jésus. Est-ce que c'est ça? Vous voulez ressembler à Jésus? Vous connaissez le petit cantique, hein? Je l'aime bien aussi. Te ressembler, Jésus, mais comment? Ben c'est dans une situation comme cela qu'il faut ressembler à Jésus. Te ressembler, Jésus, quand justement on est rejeté, quand on est persécuté peut-être, incompris, calomnié, qu'il y ait en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh, quelle victoire! Puis quelle libération! Mais il s'anéantit lui-même. Et vous savez, pour cette retraite, comme jamais encore, je l'ai demandé au Seigneur. Je lisais dans le texte le plus profond, là, s'anéantir lui-même, littéralement, c'est il se vida de lui-même. Oh mes amis, ça m'a parlé. Est-ce que nous sommes vidés de nous-mêmes? Vidés de nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous avons notre nature, n'est-ce pas? Eh bien oui, Jésus, il avait quoi? La nature de qui? Il avait la nature de Dieu. Et il s'est vidé de cette nature pour prendre quelle nature? La nôtre, mais sans péché. Hein. Mais ce mot, il s'est vidé d'arbitre, il s'est anéanti lui-même. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Eh bien, c'est cela qu'il a fait pour nous. Alors j'ai demandé au Seigneur que je sois vidé de moi-même. Parce que la parole de l'Évangile, c'est cela, renonce à toi-même, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que Jésus pouvait dire renonce à toi. Pourquoi? Parce que lui avait renoncé. Et ma prière en allant sur le chemin du cimetière du Mont-Royal hier, parce que j'étais dans l'angoisse, j'étais dans le combat, j'ai dit au Seigneur, tout en marchant vers ce cimetière, vous direz, il va au cimetière, oui, vous le savez, hein, je m'en vais souvent au cimetière, moi. Pourquoi pas? Parce que là, j'ai la paix. Non, mais il n'y a pas trop de voitures, on est tranquille, et je prie, hein. J'ai pas besoin d'être sur mes genoux. Je marche, et dans ma marche, je crie à Dieu. Et je pensais à ça, tu t'es vidé toi-même, le Seigneur, vide-moi de moi-même, et puis permet vraiment qu'on ait une retraite bénie. Parce que c'est pas parce qu'on a déjà eu des retraites bénies qu'on se dit, oh ben, tu peux compter que ça ira bien. Nous sommes toujours remis à zéro. Hein. Et je pense que vous faites aussi cette expérience dans votre vie. Hein. Vous êtes toujours remis à zéro. Nous sommes toujours remis à zéro. Comme si on n'avait jamais fait une retraite. Hein. Comme si on était incapable d'en faire une. Puis c'est vrai, on est toujours incapable. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et alors, nous avons à cœur le bien des âmes. Vous vous êtes déplacés, non pas pour rien, non pas pour entendre un bonhomme comme moi, mais vous êtes venus pour écouter la parole du Seigneur et pour repartir avec une direction du Seigneur qui vous inspire des réponses d'amour dans la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Eh bien, pensons au Seigneur dès ce premier moment, n'est-ce pas? Parce que c'est lui que nous sommes venus rencontrer. Il a pris la condition d'esclave, il s'est vidé lui-même. Et ce que je demandais au Seigneur, j'ai dit, que ce que je vais dire, que je le vive, que ce ne soit pas une théorie que je vous apporte, mais que ce soit quelque chose de vécu. Et que vous puissiez réaliser que si c'est vrai pour moi, ça doit être aussi vrai pour vous, parce que vous avez le même prix que moi aux yeux de Dieu. Jésus est mort pour vous comme il est mort pour moi. C'est quand même fantastique. Vous êtes aimés d'un grand amour, prenez conscience de cela. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu me rappelle sans cesse ces jours, que je dois vous dire que Dieu vous aime comme il aimait son propre fils. Voilà ce qui doit être dans votre cœur. Vous êtes aimé du Père Céleste comme il aimait son propre fils. Alors ne doutez pas. Mais évidemment, son fils n'a pas eu une vie facile. Vous n'avez pas une vie facile. Vous avez des épreuves. Mais son fils a eu des épreuves. Mais il faisait la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Alors, dès qu'on pense à ça, nous voici réconciliés avec tout ce qui peut nous arriver. C'est quelque chose de merveilleux. Et qui est-ce qui va agir pour nous? C'est le Seigneur. Et nous allons le voir dans le sujet que nous allons traiter. Quand on s'occupe de Dieu et de ses intérêts, lui s'occupe de nous et des nôtres. Lui s'occupe de nous. Eh bien, nous reprenons notre texte. Il a pris la condition d'esclave. Voilà pourquoi il est le maître, hein? Parce qu'il a été esclave. Il peut comprendre les esclaves. Il a été esclave. Alors il peut être maître. Mais il a pris cette condition d'esclave. en devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore. Voyez-vous, c'est quelque chose que nous n'aimons pas, l'humiliation. Nous n'aimons pas nous humilier. Nous n'aimons pas reconnaître que nous ne sommes rien. Mais je le disais à un de nos amis qui collabore avec nous tout à l'heure, au fond, c'est absolument nécessaire que nous soyons brisés. Et alors le Seigneur permet que nous ayons des épreuves qui nous brisent, qui nous humilient. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort ? La mort de la croix. Et comme je l'ai dit l'autre jour dans une retraite, pour Jésus, qu'est-ce que c'était réussir ? C'était mourir, hein, il y en a qui se souviennent. Réussir, c'était mourir. Parce que s'il n'était pas mort, nous étions tous perdus. Alors, s'il voulait vraiment notre salut, il fallait qu'il meure. Du reste, il disait, il faut que le Christ souffre ces choses. Mais ça ne nous est pas naturel, ça. Nous humilier, mais c'est l'autre qui est en tort. Mais si nous raisonnons comme ça, rien ne va plus. Je n'ai pas à penser au péché de l'autre. L'autre, il aura affaire avec le Seigneur. Mais j'ai à penser à mes propres péchés. Et même si, apparemment, j'ai conscience, mais je n'ai pas manqué sur ce point-là, eh bien, il y a le péché collectif. C'est cela que nous disions avec notre frère. Et c'est de ce péché collectif que Daniel savait s'humilier. Il dit, dans cette prière qui nous a occupés lors de notre dernière retraite, quand il prie pour Jérusalem, pour la reconstruction de cette maison qui va nous occuper, il s'humilie, il parle du péché de ses pères, mais il parle aussi de ses péchés. Nous avons péché. Il dit, j'ai péché. Il ne parle pas seulement du péché des autres, mais des siens. Et pourtant, quand vous lisez l'histoire de Daniel, qu'est-ce qu'il avait à se reprocher? Même ses ennemis ne pouvaient rien trouver dans la vie de Daniel qui soit à lui reprocher. On ne pouvait lui faire aucun reproche. Et pourtant, il dit, il s'humilie pour ses propres péchés. Parce que il y a ce péché collectif. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Et nous devons reconnaître le péché collectif. On n'a peut-être pas trempé dans telle ou telle affaire, mais pourtant, nous sommes dans ce monde, et dans ce monde, il y a toutes sortes de choses qui se passent, et nous y avons aussi des responsabilités. Et nous devons admettre cela. Le Seigneur a tout pris sur lui. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Voyez-vous, ce dont Jésus s'est dépouillé, ce n'est pas de sa nature divine, mais de la gloire qu'elle lui valait de droit. Il était en forme de Dieu, il était de condition divine. Mais qu'est-ce qu'il a abandonné? La gloire de cette condition. Et nous, qu'est-ce que nous voulons toujours? Notre gloire. C'est notre gloire que nous voulons. Eh bien, ce que le Seigneur m'a fait comprendre pour moi, c'est pas que moi j'ai la gloire, mais c'est que Dieu soit glorifié. Et il ne peut pas être glorifié par nos disputes. Il vaut mieux disparaître. La gloire qui
qu'il avait auprès de lui. Bien, quand il a été sur la terre, il ne l'avait pas. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa course ? Glorifie-moi, toi Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Où voyez-vous la gloire de Jésus ? Quand on l'a enlevé ses vêtements, on l'a dépouillé de ses vêtements, de sa tunique, et on l'a cloué là, sur une croix, nu aux yeux de la foule. C'est quelque chose. Alors qu'il était de condition divine, il a abandonné sa gloire. Et il a été traité comme un malfaiteur. Et alors après, bien, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si on a ces sentiments, qu'est-ce qu'il y aura ? Après cette mort, après cette ignominie, après ces souffrances, parce que c'est ça qui compte. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais apparemment, Dieu n'a pas répondu quand il était sur la croix, quand il était dans la souffrance, quand il était dans cette humiliation. Il semble que Dieu l'a abandonné et lui-même a pu dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais c'était pour rendre sa gloire plus grande. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus bas des cieux sur la terre, au plus haut des cieux sur la terre et sous la terre. Ces trois divisions cosmiques qui embrassent l'univers. Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça que nous voulons. Jésus est Seigneur. Moi, je ne suis rien. Et quand vous acceptez d'être rien, le Seigneur peut être tout. Et quand le Seigneur est tout, bien en lui aussi, vous vous trouvez. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire au début de nos rencontres. Parce que le Seigneur m'avait travaillé. Je n'ai peut-être pas pu rendre tout ce que j'avais ressenti hier, mais je veux croire que le Saint-Esprit vous fera comprendre ces choses. Être vidé de soi-même, c'est l'exemple que le Seigneur m'a donné. Et non pas être rempli de soi. Alors, avant de présenter le thème de notre retraite, je me permets de vous poser aussi quelques questions. Qui participe pour la première fois à cette retraite ? Il y en a quand même une dizaine, hein, à peu près. Qui ignore le sens du mot Mahanaïm ? Il y en a quelques-uns ? Oui. Parce que j'ai l'air de me répéter pour ceux qui savent ça depuis longtemps, puisqu'il y a environ 20 ans que nous faisons cela. Hein. Mais quand vous rentrez chez vous, on vous demande où vous êtes allé, vous dites à la retraite Mahanaïm. C'est du chinois, hein. Non, c'est de l'hébreu. N'est-ce pas ? C'est un lieu géographique qui se trouvait en Israël où Jacob a eu une vision alors qu'il revenait après 20 ans d'exil, il revenait dans sa famille et il apprend qu'Ésaü, son frère, vous connaissez tout cela par l'histoire sainte, Ésaü, son frère, venait à sa rencontre. Et vous savez que quand Jacob avait fui la maison paternelle, c'était pourquoi ? Parce qu'Ésaü voulait le tuer. Jacob avait trompé son frère. Hein, et les choses avaient mal tourné, et Ésaü voulait tuer son frère. Mais il attendait la mort du père.
20 ans après, Jacob revient.
Et Ésaü est toujours vivant. Et il a peur. Il apprend qu'Ésaü revient à sa rencontre avec 400 hommes. Alors, lui revient avec 4 femmes, 12 enfants. Enfin, 11 et 3 quarts, disons, puisque l'enfant allait naître, Benjamin. Et il prie. Et c'est à ce moment-là qu'il a une vision d'ange. Il voit 2 cohortes d'anges qui viennent à sa rencontre, au lieu que ce soit Ésaü. Et alors il s'écrit, mais c'est le camp de Dieu! Et il appela le lieu où il avait eu cette vision, Mahanaïm. Le camp de Dieu. Il sait qu'il n'est plus seul, mais que Dieu sera avec lui. C'est Genèse, chapitre 32, versets 1 à 2. C'est là que nous avons trouvé le mot Mahanaïm. Et pourquoi avons-nous appelé ces retraites Mahanaïm ou les camps Mahanaïm? Parce que nous ne voulions pas que ce soit le camp d'une communauté particulière, mais le camp de Dieu, où toutes les âmes puissent venir. Pas le camp de certains frères, d'un certain groupe, d'une certaine église, mais le camp où tous peuvent venir. Même ceux qui ne sont pas croyants, hein, qui sont aussi des créatures de Dieu, que Dieu aime et qu'il cherche. Le camp de Dieu. De sorte que, quand on nous a demandé de faire, en plus des camps qui étaient faits surtout pour les jeunes, des retraites pour les gens plus âgés, nous avons conservé ce nom pour qu'il soit bien entendu que dans ce lieu-ci, qui est un lieu providentiel, hein, vous puissiez vous sentir à l'aise. Vous ne venez pas dans un groupe particulier, dans une secte, mais vous venez dans ce lieu qui s'appelle le manoir d'Youville pour y entendre la parole de Dieu. Et pour repartir plus libre encore que vous n'êtes entré. On n'essaye pas de vous accrocher pour vous faire adhérer à un groupe ou à un autre. Que le Seigneur vous conduise. Et c'est tout notre sujet d'aujourd'hui et de demain, de cette retraite. C'est le Seigneur lui-même qui vous conduira vers ceux avec lesquels vous aurez peut-être à vous rassembler. Voilà pour le nom Mahanaïm que vous trouvez une douzaine de fois dans l'Écriture. C'est le camp de Dieu où les cohortes angéliques sont là pour nous entourer et nous espérons que vous comprendrez aussi qu'il y a une présence, non pas seulement du Seigneur, mais de tous ses anges, de toutes les armées célestes auprès de vous pendant que vous êtes ici. Maintenant, une autre question. Qu'est-ce que c'est que le manoir d'Youville? Est-ce que vous savez? Vous êtes venu au manoir d'Youville, qu'est-ce que c'était? Je sais que je mets en rage certaines personnes, parce que je dis quelques mots de Marguerite d'Youville que vous voyez là. C'est pas pour l'adorer qu'elle est là, hein, pas du tout. Mais c'est une œuvre d'art qui rappelle la fondatrice de l'ordre des sœurs grises, hein, qui sont les sœurs de la charité. Mais qu'on a appelé sœur grise. Hein. Et vous connaissez pourquoi? Je l'ai déjà raconté. Hein. C'est le monde qui les a appelées sœur grise. Parce que, évidemment, Marguerite d'Youville et les jeunes filles qu'elle a rassemblées avec elle pour faire une œuvre, qu'est-ce qu'on a commencé de dire? Quand quelque chose de bien se fait, il y a tout de suite des ennemis. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand elles se réunissent, c'est pour s'enivrer. Elles sont grises. Hein? Vous savez ce que ça veut dire, gris? Il est gris, il a bu. Eh bien, c'est une calomnie du monde. Et puis, Marguerite d'Youville était assez humble pour dire, eh bien, puisqu'on dit cela, nous prenons ce nom. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Hein? Au lieu de se révolter, vous dites, non, nous allons nous défendre et montrer que nous ne sommes pas grises. Peut-être qu'elles le montrent parce qu'elles ont un habit brun. Je suis tellement bête qu'une fois j'ai demandé à une supérieure des sœurs grises pourquoi elles avaient un habit brun. Alors qu'on les appelait les sœurs grises, moi je pensais à l'habit, où on est. Puis elle m'a dit avec un beau sourire, mais vous savez pas, puis elle m'a raconté l'histoire, et c'est tout à fait vrai. C'est le monde qui les calomniait, qui disait que leur rassemblement c'était pour boire, c'était pour s'enivrer. Et vous savez, c'est vieux comme le monde cette histoire. Quand il y avait une femme qui était en train de prier, dans le chapitre 1er de Samuel, hein, qui priait un peu longuement et qui pleurait, qu'est-ce qu'un vieux sacrificateur lui a dit? Lui qui savait pas reprendre ses enfants à 80 ans. Quand est-ce que tu auras fini de cuver ton vin? Un truc comme ça. Vous savez qui c'était? Élie, le vieil Élie. Hein? On prenait Anne, la future mère de Samuel, pour une personne qui était ivre, alors qu'elle était en prière. Alors que ses sœurs avaient besoin justement de la prière, on disait qu'au lieu de prier, elles s'enivraient. Alors on les a appelés sœurs grises. Eh bien, vous êtes ici dans ce manoir qui appartient à ces sœurs grises et qui a eu comme fondatrice Marguerite Duville, qui est née en... Je désire quand même vous rappeler cela. Elle est née en 1701 à Varennes et elle s'appelait Marie-Marguerite Dufros de la Gémerée. Et elle s'est mariée en 1722 à un certain François Duville, c'était son nom. Hein. Le mari de Marguerite s'appelait François Duville, sieur de la Découverte, et elle a perdu son mari en 1730. Donc après combien d'années de mariage? 8 ans seulement, il y a des veuves ici peut-être. Hein. Eh bien Marguerite Duville était une veuve qui était mère de 2 enfants. Et au lieu de s'abîmer dans sa souffrance, dans sa solitude, elle a fondé en 1737 ce qu'on a appelé les sœurs de la, le mouvement des sœurs de la charité. Et elle meurt en 1771 à Montréal. Et il y a un livre sur elle qui dit « Elle a beaucoup aimé ». Eh bien, quelqu'un m'a dit, vous savez, moi, je suis fâché contre vous. Je dis « Pourquoi ?» C'était dans l'Ontario. Oui, il y a un mois qu'on m'a dit ça. Je dis, ben, parce que vous aimez Marguerite Duville. Et moi, j'aime Marguerite Duville. Il y a longtemps qu'elle est au Seigneur, qu'elle est auprès du Seigneur. Oui, mais enfin, vous en parlez. J'ai dit, vous êtes déjà venu à une retraite? Non. Alors, comment est-ce que vous savez cela? Ben, j'écoute vos cassettes. Il ne m'avait jamais vu. Il n'était jamais venu à une retraite. Mais il était offusqué parce que je dis quelques mots chaque fois pour que vous sachiez où nous sommes. Et au fond, ça n'est pas tombé du ciel comme cela. Il y a eu quelqu'un qui a commencé une œuvre, et puis nous bénéficions des résultats de cette œuvre. Alors, j'aime à reconnaître le bien que Marguerite Duville a fait, et comme je l'ai dit, nous n'avions pas besoin de la béatification de Marguerite Duville pour savoir qu'elle est une bienheureuse. Que le pape Jean XXIII ait trouvé bon de la béatifier le 3 mai 1959, eh bien, ça n'avance pas grand-chose parce que nous la croyons bienheureuse. Parce qu'elle est morte sans le Seigneur. Et que dit la parole? Apocalypse 14, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Et nous sommes les bénéficiaires de cette œuvre. Nous n'avons pas à juger les autres. Nous bénéficions de leurs œuvres. Et qu'est-ce qui produit vraiment les œuvres? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fallu, quand vous lisez un peu sa vie, des preuves? Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il l'anime? La foi en qui? Au diable. Hein, c'est ça? Non! Mais vous savez, il y a un sale esprit, même chez les chrétiens évangéliques. Et il nous faut nous en dépouiller. Le Seigneur s'est vidé de sa condition divine. Et nous aussi, nous devons nous vider de certaines choses qui ne sont pas du tout divines pour reconnaître
le bien que Dieu a pu opérer dans bien des cœurs, dans les siècles passés, qui n'avaient peut-être pas les lumières que vous avez maintenant, mais qui ont vécu d'après ce qu'elles connaissaient. Alors, je n'ai pas peur de me compromettre en disant cela, parce que je veux être honnête et droit. Alors, on introduit simplement notre thème. Quels sont les caractères d'un réveil spirituel? Ben, vous savez, peut-être le réveil spirituel, c'est de se débarrasser de toutes ces fausses idées que nous avons pour ne plus avoir que les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes au manoir d'Youville. Est-ce que vous avez les sentiments qui sont en Jésus-Christ pour les sœurs que vous rencontrerez ici? Ces sœurs de la charité, dites sœurs grises, est-ce que vous aurez les sentiments qui sont en Jésus-Christ? Un regard d'amour. Pas des arrière-pensées. Elle nous reçoit avec tant de gentillesse. Vous savez ce que la supérieure m'a dit quand je suis arrivé ici avec ma femme cet après-midi? Je ne l'avais pas revue depuis le mois de février. Elle me dit, mais M. Racine, c'est comme si vous étiez parti hier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une salutation comme ça, quand on nous reçoit en nous disant, bonjour, c'est comme si vous étiez parti hier. Donc, on a vécu avec eux. On a été dans leurs pensées. Ils nous retrouvent avec joie. C'est quand même touchant. Eh bien, ayons-nous aussi un esprit de reconnaissance pour ceux qui nous ont accueillis. Et quand nous passons, n'ayons pas des regards hautains, mais ayons un regard d'amour. Qu'il y ait en nous, dans cette retraite, comme jamais encore, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour toutes les âmes. Et vous verrez des miracles, vous serez étonnés. Quand nous aurons changé d'attitude, nous serons étonnés de voir combien des choses pourront être faites par le Seigneur. Si je me laisse faire par le Seigneur, si je me laisse corriger par lui, si je m'humilie des pensées qui n'étaient pas à sa gloire, que Jésus n'avait pas, il n'a pas eu de mauvaise pensée, il n'a pas eu de pensée de jugement pour la femme samaritaine, il a eu des pensées d'amour. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette femme? Elle a été le moyen de son salut. Pourtant, elle avait saint mari. Elle avait eu son mari, celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Il y a salut pour tous. Ayons ce cœur ouvert. Quels sont les caractères d'un réveil spirituel? Eh bien, pour moi, aujourd'hui, un des premiers caractères, c'est d'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Là, si nous avions tous, en quittant ce lieu, les sentiments qui sont en Jésus-Christ, il y aurait un réveil au Québec. Vous seriez un élément de réveil dans votre assemblée. Vous apporteriez à votre assemblée, non pas un esprit de dispute, de chicane, mais de réveil, un esprit d'amour. Et ce thème qui a été choisi donc pour toute l'année 88, comme nous avions fait un message trinitaire pour toute l'année 87, eh bien pour l'année 88, nous avions à cœur quels sont les caractères d'un réveil spirituel. Et nous voulons traiter cela en trois volets. Le premier volet a été traité dans la retraite du 19 au 21 février. Et le sujet était l'autel remis sur ses bases, ou la croix remise au centre de notre prédication. C'était le thème que nous avons traité. La croix remise au centre de notre vie, de nos communautés chrétiennes, la croix, l'autel, dans l'Ancien Testament, nous annonçait déjà la croix. Pour entrer dans le sanctuaire, dans le tabernacle, il fallait qu'on passe par l'autel. On ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire sans passer d'abord à l'autel où l'on offrait quoi? Les sacrifices. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans sacrifice. C'est tout l'Ancien Testament, cela. Mais pour nous, chrétiens, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans passer par où? Par la croix.
Et si vous voulez un réveil, eh bien, demandez à Dieu que la croix soit remise au centre. Non pas simplement sur les murs, mais la croix dans nos vies. Et que nous sachions ce que signifie la croix dans nos vies. Non pas un ornement. Moi, je suis chrétienne, alors j'ai une croix. Une croix sur la poitrine ou autour du cou. C'est pas ça, une croix dans notre vie, que le sens de la croix, nous ayons pu le comprendre. Eh bien, c'est par là que commence un vrai réveil. Parce que les vraies conversions, elles se passent à la croix. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la croix? Dites-moi un peu, vous y avez pensé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la croix? À cause de nos péchés, il a fallu que, sur la croix, Jésus expie nos fautes. Et il n'y a plus d'autel pour le chrétien, comme il y avait en Israël. Les autels en Israël, comme du reste chez les païens, qu'est-ce qu'on y sacrifiait? Des animaux. Mais ce n'était pas le sang des taureaux et des boucs qui pourrait ôter le péché. Qu'est-ce qu'il fallait? Le sang du Fils de Dieu. Pas le sang de bébé, le sang d'être humain, mais il a fallu le sang du Fils de Dieu, qui a revêtu un corps pour que tous ces sacrifices soient abolis. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul sacrifice qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de la croix a supprimé tous les sacrifices des autels de l'Ancien Testament. Et ma femme m'a dit de vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée cette année même, après justement avoir prêché cette retraite sur la nécessité de la croix, qui est un des premiers éléments d'un vrai réveil. Quand la croix est de nouveau mise au centre de notre vie, quand elle est vraiment prêchée, il y a des conversions réelles. Mais il faut prêcher la croix, pas une morale, mais la croix. Et vous savez, prêcher la croix, c'est pas une petite affaire, hein, parce que les gens n'aiment pas qu'on leur parle de la croix. Les gens n'aiment pas le message de la croix. Et pourtant, c'est le seul qui sauve. Et l'histoire que je vous raconte, ça s'est passé cet été, après les camps, j'ai fait plusieurs camps. Eh bien, nous sommes partis avec ma femme pour quelques jours en Suisse. Et là, j'ai retrouvé certains de mes enfants et de mes petits-enfants. Puis nous étions six. Ma femme était restée au bas de la montagne et je suis monté avec mon fils aîné et les petits-enfants. Sa femme et quatre de nos petits-enfants. Puis, c'est tellement beau la Suisse, vous savez, je ne vais pas vous faire envie, mais les Alpes, c'est merveilleux. Je connaissais très bien le chemin, on est monté là-haut, puis en redescendant, on voulait redescendre à pied. On est monté en téléphérique, puis on redescendait à pied. Puis mon fils avait beaucoup de choses à me dire en marchant, les enfants étaient avec nous. Et voilà, je savais très bien où était le chemin, mais c'était très dangereux. Il fallait passer par un lieu où il y avait une croix. Vous savez qu'en Suisse, il y a des grandes croix aussi. Et cette croix indiquait le chemin. Puis, je le savais, il fallait passer par la croix. Il fallait passer par la croix. Et puis là, il y avait un passage qui était moins dangereux. On pouvait se tenir à une barre de fer et descendre jusqu'au fond du ravin. Et voilà que j'ai manqué la croix. On était en train de discuter, on a passé la croix. On a manqué la croix. Alors, bon, elle n'est pas là, cette croix, non? Oh, on peut y aller. On est allé quand même. Puis je pensais qu'il y avait quand même un passage que je trouverais plus loin. Il n'y en avait pas. De sorte qu'on s'est embourbé dans la forêt, et puis on est arrivé dans un apic où c'était mortel. Et voilà, la nuit arrivait. Alors, que faire? Mon fils, fallait tout remonter, hein. Fallait remonter tout ce qu'on était descendu déjà. Fallait tout remonter, la nuit approche. C'était quelque chose d'angoissant. Puis tout à coup, j'entends ma belle-fille qui dit « Papa, viens vite, il a un malaise. »
il est un peu cardiaque, mon fils. Alors oui, il s'évanouissait. Alors vous savez, j'étais vraiment dans mes petits souliers. Alors, mes petits-enfants disent, papitou, prie, prie. Alors voilà, tout à coup, c'est le cri, prie. J'ai dit, nous avons manqué la croix. Alors c'était une occasion de parler à mes petits-enfants. Nous avons manqué la croix. Et quand nous manquons la croix, c'est la Bible. Il n'y avait plus que la Bible. Après, j'ai demandé à un homme qui s'y connaissait, un montagnard là, il m'a dit, il n'y a que ce chemin-là. Il n'y a que par la croix qu'on peut descendre. Sans ça, c'est la mort. Puis, nous avons vu avec ma femme, il y a plusieurs personnes qui sont mortes là. Si vous manquez la croix, vous n'arrivez pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en arrière. Mais ça coûte. Il faut revenir en arrière. Et c'était pénible. Mais enfin, le Seigneur n'a pas permis qu'on ait d'autres ennuis. Mais je voudrais vous laisser cet exemple, parce que ça m'a parlé. Hein. Quand on manque la croix, vous ne pouvez pas arriver. Vous pensez, oui, il y aura bien une issue, mais ce n'est pas vrai, il n'y en avait pas. On espère qu'il y aura une issue. Mais non seulement, si je continuais, c'était dangereux pour moi, mais c'était dangereux pour qui? Pour les autres, pour mes enfants que j'essaie d'enseigner, et pour mes petits-enfants. Alors ne manquons pas la croix. Et c'était là le message de notre premier volet. Où nous avons parlé aussi de ce réveil. Quels sont les caractères d'un vrai réveil? Mais qu'est-ce que c'est qu'un réveil? C'est sortir de son assoupissement, sortir du sommeil, hein, c'est ça le réveil. On sort d'un certain sommeil, d'un certain assoupissement, ou alors on prend conscience de la réalité, tout à coup. Bien oui, j'ai manqué la croix, mais j'ai pris conscience de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut prendre une décision, il faut revenir. Il faut revenir. Et le Seigneur nous a bénis, et même il nous a donné un bon samaritain pour nous redescendre, pour finir, de l'autre côté. Le Seigneur est plein de grâce et miséricordieux. Ça, vous pourrez en faire l'expérience. Mais vous ne pouvez pas manquer la croix. Ça, c'était notre message de l'autre retraite. Et ce message de la croix, bien, évidemment, c'est une folie pour le monde. Il l'est dit dans 1 Corinthiens 1:8. C'est un scandale même. Quand vous dites aux gens qu'ils ne peuvent être sauvés que par la croix, qu'est-ce que la croix peut me faire? Jésus, un crucifié. Comment peut-il être mon sauveur? Et pourtant, c'est vrai. Hein. Mais pour les Juifs, c'était un message scandaleux que de prêcher la croix. Parce que l'Écriture disait, maudit quiconque est pendu au bois. C'était scandaleux pour eux. Et puis pour les Grecs qui aimaient la sagesse, c'était une folie. C'est ce que Paul dit. Eh bien, si nous ne prêchons plus la croix, il n'y a pas de sauvé. C'est un scandale, c'est une folie, mais c'est cela que nous devons prêcher. Parce que c'est par la mort de la croix que le Seigneur nous a sauvés. Mais il y a des ennemis de la croix. Il est parlé du sang de la croix, mais aussi du triomphe de la croix et de la gloire de la croix. Bien, voyez-vous, je voudrais arriver comme Paul à pouvoir dire qu'il ne m'arrive pas de me glorifier, sinon dans la croix de Christ. Qu'il ne nous arrive pas de nous glorifier, sinon dans la croix de Christ. Est-ce que je peux me glorifier d'autre chose? Mais alors, je ne suis rien. Mais oui, c'est quand il était rien que le Seigneur nous a sauvés. Comprenez-vous? Et c'est quand nous ne sommes plus rien que Dieu peut agir, que Dieu peut opérer. C'est quand vous avez renoncé que le Seigneur peut agir. Mais alors, une fois que les âmes sont sauvées, eh bien, il faut les rassembler. Et ce sera notre sujet. Pour ceux qui voudraient avoir les messages qui ont été donnés dans la première retraite, vous pouvez les avoir à Bethel où ils ont et ils sont multicopiés. C'est l'adresse de Bethel. Je vais noter quelque part. C'est non, je pense pas, c'est communication porte-parole, casier postal 1600. Casier postal 1600, Sherbrooke. Oui, je l'ai noté là. Oui. Et alors, tout notre message s'est inspiré du livre d'Esdras. Je vous inviterai à lire et à méditer les 6 premiers chapitres. C'est sur cela que nous allons parler. Les 6 premiers chapitres du livre d'Esdras. Et puis, les 2 chapitres du livre d'Agé. Et si vous le voulez aussi, les 4 premiers chapitres de Zacharie. C'est donc dans ces livres-là que vous allez trouver la base de nos messages. Mais dès demain, nous vous dirons comment nous allons procéder. Esdras, la première partie, c'est chapitre 1 à 6. Vous pouvez peut-être sauter tous les noms du chapitre 2, comment s'opère un réveil, et vous verrez déjà au chapitre 3 que la première chose qui a été faite quand il y a eu ce réveil, dont on reparlera demain, eh bien, c'était de replacer l'autel sur ses bases, c'est-à-dire remettre la croix au centre. Puis ensuite, on a commencé la maison. Je vais vous dire simplement comment les journées vont se dérouler. J'ai ici le programme, l'horaire. Ce soir donc, dans quelques minutes, nous allons avoir la collation et le coucher est à 22h45. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, et que vous avez tous trouvé vos chambres, et que vous jouirez d'un bon repos. À 7h, c'est le lever. En musique, André, vous entendrez notre ami André Monette dans les couloirs qui jouera du violon. C'est comme ça que vous serez réveillés. Vous saurez qu'il est 7h quand vous entendrez le violon dans vos couloirs. De sorte que vous n'avez pas besoin de mettre votre horloge. Vous pouvez vous laisser réveiller. À 7h45, nous vous donnons rendez-vous ici. Alors, dès que vous êtes prêts, vous pouvez venir ici, mais en silence. Et on reste ici en silence. Et à 7h45, précise, je viendrai. Et vous avez un moment de prière, déjà, là, dans prière silencieuse. On prépare la journée ainsi, dans le silence. Et je vous donne le mot du jour, et nous avons un court instant de méditation, de 7h45 à 8h, moment de prière et de méditation. À 8h, c'est le petit déjeuner à la cafétéria, là. À 9h, après le petit déjeuner, vous revenez dans la grande salle, ici, et là, je vous donnerai les textes qui vont vous occuper dans vos chambres. De 9h15, vous retournez dans votre chambre pour une demi-heure, chacun seul dans sa chambre, pour lire et méditer pour vous-même, une méditation personnelle, les textes que nous vous proposons. Et nous vous conseillons, si vous le pouvez, de lire à haute voix
pour que, en même temps, vous l'entendiez. Ça vous habitue à entendre votre voix. Vous lisez le texte à haute voix, il n'y a pas besoin de crier pour que les autres entendent, n'est-ce pas? Mais dans votre chambre, vous pouvez lire tranquillement. Et puis, non seulement ils entrent par vos yeux, mais ils entrent aussi par vos oreilles. Et ça vous habitue à votre voix. Et puis, vous réfléchissez ce que le Seigneur a à vous dire sur ces paroles. Puis, vous retrouvez alors à 9h45, après une demi-heure de méditation personnelle, vous retrouvez vos groupes. On vous dira dans quel groupe vous êtes. Nous avons fait une répartition, puisque nous sommes 80, nous avons divisé en 10 ateliers, 10 groupes, de 8, puisque nous sommes 80, et on vous dira où sont vos ateliers demain matin. Soyez tranquilles, vos enclos vous seront... les enclos pour les brebis, pour les 8 brebis, vous êtes 8 dans chaque groupe. On vous les indiquera demain matin. Il y a 8 salles différentes. Et puis, après une demi-heure de partage dans vos ateliers, vous venez ici. On a une collation à 10h15. Puis à 10h30, alors je fais l'exposé sur ce que vous avez médité. Un exposé biblique sur le sujet qui est la maison. Et sur son fondement. Puis à 12h, c'est le dîner. Ensuite, vous avez un temps de repos dans vos chambres ou alors autour de la maison s'il fait beau. Il y a un chemin, il y a une très belle promenade et la vue est magnifique. Vous avez le lac et on peut voir jusqu'à Montréal de l'autre côté. C'est un très beau coin. Et en haut, il y a un cimetière. J'en sors pas. Hein. Cimetière des sœurs grises. Et ça m'impressionne toujours de voir toutes ces petites tombes, là, toutes ces sœurs qui ont consacré au fond toute leur vie. Puis elles sont là. Enfin, leur dépouille, disons. C'est le Seigneur qui juge. Et alors, à 14h, on se retrouve tous dans la salle. Je vous donne les textes pour l'après-midi. Vous retournez dans vos chambres pour une lecture personnelle. Et puis, après une demi-heure, à 14h45, ce sont les ateliers et le partage. Ensuite, vous venez ici. À 15h15, il y a une collation. À 15h30, l'exposé biblique. Puis, à 17h30, le souper. 18h30 demain, on aura un moment de chant, de détente, dans la grande salle. Et puis, à 20h, lecture personnelle dans les chambres. 20h30, les ateliers et partage. Et à 21h, l'exposé biblique. Et à 22h15, comme maintenant aujourd'hui, la collation et le coucher à 23h. Alors, dimanche, le lever, c'est à la même heure avec... le même mode de réveil, levé à 7h, méditation à 7h45, ici dans la grande salle, on se retrouve pour un moment de prière. À 8h, le déjeuner, à 9h, le rassemblement dans la grande salle, 9h15, la lecture personnelle dans les chambres, pendant une demi-heure, atelier à 9h45, et partage, puis la collation, l'exposé biblique à 10h30, le dîner à 12h, et à 13h30, alors, le culte d'adoration que nous aurons avec la table du Seigneur, le repas du Seigneur, selon que le Seigneur nous conduira. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes à peu près au courant maintenant? Alors, allez dans vos chambres après la collation sans souci parce que on vous donnera les instructions demain pour que vous n'ayez aucun problème. Oui? Ah, mais je dis s'il y en a qui veulent le lire ce soir, mais c'est pas obligatoire. Je dis que tout ce que nous allons lire se trouve pour que vous ayez déjà une connaissance, parce qu'il y en a qui aiment avoir déjà au fond les textes. Hein.
Eh bien, c'est un ensemble. On parlera pas de tout cela, mais tout ce qui sera dit a pour base essentielle les 6 premiers chapitres d'Esdras, les 2 chapitres du livre d'Agée, qui a été l'instrument d'un réveil, et puis ensuite, si on le veut aussi, puis Zacharie, il y a quelques versets dans Zacharie qui seront cités. Puis bien sûr, on ira dans le Nouveau Testament, mais ça, c'est au fur et à mesure des réunions. Il y a autre chose? Sinon, on va rendre grâce au Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir parlé ce soir des sentiments qui étaient dans le cœur de ton Fils. Et nous voulons te demander qu'il nous reste ce soir cette pensée qui était en Jésus-Christ et qui a aimé les hommes d'un tel amour qu'il a pu donner sa vie pour eux. Et s'il l'a fait, c'était parce qu'il t'aimait, ô Père. Lui-même pouvait dire que le Père aussi l'aimait parce qu'il donnait sa vie. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour mes brebis. Que nous puissions nous retirer en pensant que chacun de nous, nous sommes une de tes brebis, chère à ton cœur, et que nous puissions voir chez nos frères quelqu'un de supérieur à nous-mêmes, pour ta seule gloire. Fais ce miracle en nous, pour que demain nous soyons préparés pour recevoir ta parole, comme tu voudrais nous la donner. En Jésus.